on va préparer Paris-Roubaix avec qui de mieux que le dernier vainqueur français, et je dirais même celui qui prépare peut-être le futur vainqueur français, Julien. C'est Frédéric Guédon.
Oui, pourquoi pas. On l'a vu. Il me semble qu'il n'y avait pas longtemps qu'on l'a vu, mais quand tu m'as rappelé que c'était quand
c'était il y a 4 ans.
Il y a 4 ans déjà, oui, il me semble que c'était il n'y a pas longtemps. Mais qui mieux que lui, parce qu'il le connaît très bien, Paris-Roubaix. Voilà, il sait que cette course-là, il faut avoir tout de son côté, quoi. La chance, enfin, il faut tout avoir de son côté pour être performant et l'emporter. Et on y reviendra tout à l'heure.
On parlera également de nos petits pronostics, le Tour du Pays Basque qu'a eu aussi en ce moment, avec tes amis Nairo et compagnie.
Ouais, c'est bien disputé. Encore aujourd'hui, une petite échappée avec Pierre Roland qui était devant, un petit Navarro qui a attaqué à quelques kilomètres de l'arrivée, qui s'est fait reprendre, et Koenigs qui gagne avec sur un fil de jeu.
Et lundi, on ne savait pas si ce qu'allait faire Landa, lui, que Sky a recruté pour gagner le Giro. Bam, il claque une étape d'entrée. Mélanie, il y a un autre invité tout à l'heure. Ouais. C'est quelqu'un qui a...
Qu'on avait déjà eu aussi quand ils avaient organisé la première manche de Coupe du Monde aussi.
Quelqu'un spécialiste organisateur plutôt de la descente.
C'est le président du club de Lourdes VTT. Donc Patrice Border, en fait, dimanche, ce week-end, ils organisent la Coupe du Monde de VTT descente.
À Lourdes,
du Gers. Voilà, c'est ça. Donc on l'aura au téléphone pour nous parler de l'événement, nous expliquer un peu tout ce qui est prévu sur le week-end, parce qu'ils ont prévu pas mal d'animations, d'après ce que j'ai pu lire, donc voilà.
Voilà, l'émission préparée in extremis, le programme est en train d'être partagé, je vois. Vous êtes sur les réseaux sociaux, le Facebook, Radio Vélo, le Twitter, @RadioVélo31. Oui, mais voilà, show must go on aurait pu lancer même avec Fabien Cacciera, Sagan, Julien, un petit jingle, quelque chose pour revenir sur ce Tour des Flandres et lancer le petit débat avec nos amis de Vélo Club du Net, où vous avez lancé le débat sur leur forum. On va également préparer ce Tour des Flandres où la météo risque de vraiment compter, ça Ben Javin il va nous le dire dans quelques secondes, et puis voilà vos petits avis que vous avez déjà donnés sur internet.
Mesdames, messieurs, chers collègues, la séance est ouverte.
Paris-Roubaix, c'est déjà demain, c'est à la fin de la semaine, c'est dimanche, et du côté de Vélo Club du Net, Benjamin Acaillon a lancé le débat. Qu'attendre de Paris-Roubaix après ce beau Tour des Flandres, où le mano à mano tente annoncé à Peter Sagan la relève, même le champion du moment, et Peter Sagan qui aurait pu être le recordman de victoire dans l'histoire du Tour des Flandres s'il avait remporté bien sûr une quatrième victoire. Et bien le duel, le mano à mano à distance aura bien eu lieu, et du côté de Paris-Roubaix, ben oui, on salive à l'avance, d'autant que la météo est annoncée incertaine. Également,
ça va être un paramètre hyper important.
Où en sont les Français? C'était un petit peu ça, Benjamin, les questions que tu as lancées.
Ouais, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on devait attendre? Est-ce que les premiers du Tour des Flandres, ce qu'on a vu dimanche, batailler, seront-ils les mêmes pour Paris-Roubaix? Et très vite, la discussion a tourné autour de la météo, puisque la météo va avoir une très très grande importance. Et on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on aura comme temps. Alors, peut-être on aura du soleil, mais dans ce cas-là, ça serait la configuration la moins intéressante, entre guillemets, pour les spectateurs.
Oui.
Puisque le pavé serait humide des derniers jours, mais il n'y aurait pas de poussière malgré le soleil. Et par contre, s'il pleut, là, ça va être boueux de chez boueux. Et ça peut favoriser certains types de coureurs. Et moi, je pense par exemple notamment à Tom Boonen, qui s'était révélé à l'époque quand il était tout jeune, dans la boue, et un Tom Boonen qui est très fort lorsque les courses sont lancées de loin. Et pour ce qui pourrait être son dernier Paris-Roubaix, on pourrait bien le voir à l'œuvre, puisque de toute façon, quand les éthiques attendent, ils sont à chaque fois battus.
Intéressant. On rejoint Evelyne Delia en direct de Roubaix, donc pour le point météo de Radio Vélo. Non, plus sérieusement, Benjamin, c'est vrai que quand j'ai vu ton débat, ça, je me suis dit, boudu, il annonce la pluie là. Benjamin, quand même, je vais regarder en détail les prévisions météo avec un petit site bien sympa.
La météo, attention, parce que du jour au lendemain, même la journée, ils ont du mal à prévoir la journée.
On demandera à Fred Guédon qui est en route là-bas pour Roubaix, oui, où il va faire les reconnaissances demain avec les coureurs. Mais moi, de ce que j'ai regardé sur les sites plutôt fiables, on parle de possibles averses le week-end. Ça veut dire que ça sera pas détrempé d'un pu. Donc, est-ce que ce sera assez pour peser sur la course?
C'est une course particulière à Paris-Roubaix, rien à voir avec le Ronde. C'est quand même, c'est pour moi, c'est différent quand même, hein. C'est pas le même type de course. Ça roule très, très vite. Il n'y a pas de bosse. C'est très nerveux, même si c'est pareil, mais ça, à part que c'est dans bosse. Voilà, la météo va être un facteur vraiment, vraiment hyper important. Ouais. Et on peut avoir de grosses surprises, à mon avis, sur ce Paris-Roubaix ce week-end.
Ouais, j'ai vu des images, moi, sur Twitter. Je crois que c'est l'équipe Trek qui a reconnu quelques secteurs pavés. Et actuellement, c'est boueux, mais vraiment boueux. Donc, c'est vrai que si le vent ne vient pas sécher,
on pourra avoir quelques cyclocrossmen qui soient là-devant. Hein.
Ouais, mais là, c'est vrai que le caractère technique sur les pavés va avoir un rôle très important, plus que la puissance en elle-même. Ça peut jouer des tours à certains.
Benjamin, quels sont les premiers échos qu'il y a eu sur le topic débat de Vélo Club du Net?
Ah ben écoute, ça ne s'entend pas trop sur qui c'est qui pourrait être à l'avant de ça. En fait, vu que la météo est incertaine pour beaucoup, tout simplement les favoris sont également ne sont pas forcément les mêmes. Surtout que si c'est un Paris-Roubaix humide, un Paris-Roubaix même s'il pleut pas, boueux. Parce que comme le dit Guillaume, en effet, toute la semaine, on le voit, c'est vraiment de la boue, de la boue, de la boue. Et bien, ça fait tellement d'années qu'on n'a pas eu un Paris-Roubaix comme ça, que finalement, on ne sait pas quel coureur serait avantagé par ces conditions. Après, par rapport au Tour des Flandres, et les faux rumeurs rejoignent ce que dit Julien, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait le même type de coureur. Bon, on retrouvera les Flandriens à l'avant, bien entendu, mais les coureurs qui sont plus lourds, comme Christophe par exemple, auront sans doute plus leur mot à dire sur Paris-Roubaix qu'ils n'ont eu à le dire sur le Tour des Flandres. Et il y avait également quelque chose d'intéressant, c'est que Canseira pour plusieurs, aujourd'hui il le trouve mieux pour les monts que sur le plat de Paris-Roubaix.
C'est vrai qu'on arrive au Tour des Flandres, il faisait ce qu'il voulait dans les bosses. C'est là où il a largué ses concurrents.
Ah oui, oui.
C'était vraiment dans les bosses où il faisait une nette différence. Après, bon, sur le plat, il a fait quand même jeu égal avec Sagan qui survolait. Donc, c'est vrai, qu'est-ce que ça peut donner sur Paris-Roubaix où là, vraiment, il n'y a pas de bosses. Hein,
Disons que monter une bosse sur des... Bon, c'est sûr, faut être vraiment très costaud, être en forme, monter une bosse avec des pavés. Mais c'est pas comme rouler à 40 à l'heure ou 50 à l'heure sur c'est pas la même chose. Il faut vraiment savoir rester sur le vélo, d'autant plus si c'est gras et il y a beaucoup de virages. Vous savez, il y a beaucoup de secteurs pavés avec beaucoup de virages, que ce soit en angle droit ou d'ici. C'est vraiment un jeu d'équilibriste. Il faut avoir la chance de son côté parce qu'en roulant vite, les crevaisons, les chutes. Ça va se jouer vraiment au millimètre. Je pense que tout à l'heure, Fred Guidon nous en parlera. Je pense que je te rejoins un petit peu dans le sens où on va retrouver des coureurs qui sont puissants, peut-être pas forcément bons dans les Flandriennes avec des monts, mais des coureurs qui ont vraiment de la puissance et des machines à rouler qui seront très agiles, très adroits pour aller...
Comment Cacciera peut gagner ce Paris-Roubaix? C'est sûrement en partant avec des grosses machines, des gros moteurs, des Lars Boom qu'on a vu qu'il était pas mal, des Van Marck, Sepp Van Marck qui est vraiment au top du top en ce moment, mais s'il est avec Boom et Van Marck, Cacciera, il peut gagner Paris-Roubaix parce qu'il est plus rapide que cela. Par contre, s'il y a un sprinter, s'il y a Sagan, s'il y a Christophe Coix, il ne pourra pas gagner.
Est-ce que tu penses que les autres vont rouler avec un Cacciera?
Van Marck, je le trouve bon client.
Oui, il est bon client, d'accord.
Je le trouve bon client sur à peu près toutes les courses, étant donné qu'il est... qu'est-ce que tu en penses?
Il faut qu'il arrive seul parce qu'il va à 4 à l'heure.
Mais Van Marck, c'est assez. Ça me fait mal au cœur à chaque fois, Van Marck. Parce que ce gars-là, il est à un niveau exceptionnel. C'était super spécialiste. Oui. Mais il gagnera sûrement jamais de Flandrienne. Voilà. C'est peut-être un peu sévère. C'est comme un jugement. Mais il faut vraiment qu'il arrive seul, quoi. Fait. Et ça me rappelle un peu Leif Faust qui n'en a pas gagné tant que ça, alors qu'il a fait un paquet de podiums et il avait toujours quelqu'un de plus rapide que lui. Et voilà, c'est ça aussi l'originalité quand on est flahut, Guillaume.
Ouais, mais après Cancellara, s'il est avec d'autres, est-ce que les autres vont vouloir rouler avec lui?
À mon avis,
il faut qu'il parte tout seul.
Le connaissant, il va pas attendre que quelqu'un vienne lui filer un coup de main.
On l'a vu au Tour des Flandres, il va tourner
la poignée et avec la puissance qu'il a, il va partir tout seul. Il aura besoin de personne pour la gagner. Et à mon avis, je ne pense pas qu'il ait besoin de grand monde pour aller la gagner, celle-là.
Benjamin?
Oui, pour ma part, le favori, bon, j'ai vu que tu parleras des pronostics après dans l'émission, mais...
Non, mais tu peux le donner parce qu'on te coupera le micro avant.
Si c'est boueux,
ouais.
Si c'est technique, moi, celui que je vois, c'est le virtuose du vélo, c'est Sagan, encore une fois.
Sagan, encore une fois.
Il a toujours la pancarte, donc ça, ça ne va pas lui changer, même s'il a gagné le Tour des Flandres.
Oui.
Il est vraiment malin, parce que je veux dire, ce qu'il fait sur le Tour des Flandres, là, quand il part avec Kwiatkowski, il attend avant de prendre les relais pour ne pas se griller, puis quand il voit qu'il y a 20 secondes, là, il y va. Moi, franchement, je vois vraiment Sagan capable de réaliser le doublé.
Ouais, Sagan capable de réaliser le doublé. Sagan qui n'est jamais monté sur le podium de Paris-Roubaix. Van Avermaet était sur le podium de Paris-Roubaix. Ça sera l'un des grands absents, bien évidemment, ce week-end. C'était déjà l'un des grands absents du final la semaine dernière, étant donné qu'il a chuté et qu'il s'est blessé. Il est indisponible pendant quelques temps, la clavicule. Degenkolb, qui est le tenant du titre de Paris-Roubaix, ne sera pas là non plus, parce que passé en forme suite à l'accident qu'il avait eu à l'intérieur saison, qui sait qui était entre les deux sur le podium l'an dernier, c'est le phénomène Stibar. Alors peut-être Stibar, Julien, tu vas me dire.
Bah, moi je voulais le dire depuis tout à l'heure, en tant que cyclo-crossman, si jamais on a des conditions qui sont difficiles, mais encore une fois, rouler sur du pavé, c'est pas faire du cyclo-cross. Il est quand même très adroit, en cross il faut être très très adroit. Sur le pavé, quand tu roules à 50, 45, 50 à l'heure, la moindre erreur se paye cash. Quoi. Donc, et puis c'est une course, il y a tellement de paramètres, il suffit que dans une roue, il y ait une chute devant toi, ben voilà, c'est quand même une course, comme je le disais, qui est très très compliquée à pronostiquer, quand même s'il y a des coureurs qui sont très forts, on le sait, mais bon, un incident peut vite arriver, et moi, je le verrais bien, Zdenek, bien aux avant-postes.
Zdenek, ouais. Qui, souvenez-vous, en 2013, avait vraiment tous les ingrédients et failli gagner. Et il avait tout, course gagnée. Moi, j'arrête pas de dire failli gagner, comme si c'était d'une simplicité élémentaire que le chemin s'ouvrait à lui, tel un Sagan, finalement. Mais non, il avait terminé, finalement, dans le top 10, mais il avait eu de la malchance, je me souviens, sur ce Paris-Roubaix de 2013. Il terminait 6e. Godin, le français, avait fini 5e à l'époque avec Europcar. Là, c'était le meilleur français du Tour des Flandres, Damien Godin, mais Arnaud Démare, lui aussi, on en parlera avec Frédéric Guédon qui nous donnera de ses nouvelles. Il prendra la décision de demain, je crois. Arnaud Démare a participé ou non à Paris-Roubaix. Il a également joué de malchance, Arnaud. Hein.
Oui, c'est sûr que. Est-ce que, bon, si c'est pas trop blessé, ça peut-être avoir permis de bien récupérer, peut-être et vraiment d'avoir fait du jus pour ce Paris-Roubaix, parce qu'on sait qu'il en faut du jus, hein, sur cette longue distance. Je pense qu'il nous dira tout à l'heure ça, mais ouais, ça peut. Il est en forme en ce moment, donc. Mais là, il faut être plus qu'en forme.
On parlait de Stibar, il est dans cette équipe Etix Quickstep Lidl, hein, vu qu'on voit le sponsor partout. Stibar, Bounen, Terpstra, Tony Martin, Matteo Trentin, Stijn Vandenberg et Nicolas Maes. Ça, c'est l'équipe qui devrait être alignée. Il y a beaucoup de vainqueurs potentiels et d'anciens vainqueurs.
Mais si on court comme ils ont couru jusqu'à maintenant, ça va être compliqué d'aller la gagner. Donc,
c'est ça qui est dramatique.
C'est quoi qui est difficile? C'est peut-être d'avoir un Tom Boonen qui n'est plus Tom Boonen.
Ouais, Tom Boonen, je pense qu'il a. Enfin, ses années de succès sont passées. Va peut-être faire miser sur un autre coureur.
Sa présence, peut-être, qu'elle est difficile à gérer pour ses équipiers. Je vous parle toujours, dès qu'il fait beau, que Valverde, le principal problème de Quintana. Ouais. Est-ce que version pavé, Boonen, est un problème pour ses équipiers?
Bah, peut-être que oui, parce que. Est-ce que les consignes sont de rouler pour Boonen, alors que peut-être, justement. Il faudrait un petit peu laisser la place un petit peu aux autres, quoi. Comme dit Guillaume.
Pas mal.
Comment?
Je dis Boonen, je trouve qu'il roule pas mal cette année. Je dirais plus que le leader. C'est un peu Terpstra, un peu Stibar, mais on ne sait pas trop.
Ouais, c'est pas trop. Ouais. Leader.
Ils sont tous à un niveau capable d'être entre 5 et 10. Et le problème, c'est que plutôt que de jouer l'offensive avec des attaques de loin, quitte à en sacrifier un ou quoi. Ils font jamais ça. Ils attendent et au final ils sont tous embattus et ils sont moqués même, hein, parce que là où tu peux tenter plein de choses, eux ils font rien et au final ils sont tout le temps avec un train de retard. Et...
Non mais enfin là pour dimanche il faut être plus que bien, quoi. Il faut quand ça va envoyer les watts, il va falloir pouvoir suivre, quoi.
Va falloir envoyer. Benjamin, est-ce qu'il y avait d'autres choses notoires chez nos amis forumers où on a fait un petit peu le tour là de ce que tu voulais retenir du moins
pour pour les Français.
Peut-être pour les Français. C'est vrai que les Français, du coup, en regardant le classement, j'ai un petit peu décortiqué ça. On ne s'attendait pas à un miracle. Il y avait l'attraction des Mars, bien sûr, après sa victoire à Milan-San Remo. On savait que c'était plutôt Paris-Roubaix où on pouvait l'attendre. Mais on se disait, sait-on jamais ce que peut faire Arnaud Démare. Parmi les bons sprinteurs français, donc Nasser Bouhanni, lui n'était pas là. Il était en train d'acheter une montre. Et donc, du coup, pour revenir à...
Il essayait d'acheter une montre.
Pour revenir à... pour revenir à notre ami, à nos amis les Français, ça a été quand même une journée dans l'ombre, c'est ça?
Plus que dans l'ombre, ça a été une mauvaise journée. Mais après, Sénéchal, qui est peut-être le plus grand espoir, cette année flandrienne, n'était pas là. Bouvard, qui ne pouvait pas prendre l'échappée, malade. Démare qui chute, et pour moi le meilleur spécialiste du Tour des Flandres qu'on a en France, en ce moment il refuse de faire le Tour des Flandres, c'est Tony Gallopin, donc...
Probablement intéressant à retrouver un jour sur les Flandriennes, peut-être un peu plus tard sur sa carrière. Là actuellement il est autour du Pays Basque, Tony, que l'on salue, on n'a pas voulu l'offenser avec notre poisson d'avril. Et du coup, pour revenir à ce Tour des Flandres, 31e Damien Gaudin, premier français, 33e Sylvain Chavanel.
Paris-Roubaix correspond beaucoup plus à Damien Gaudin que le Tour des Flandres. Donc attention, je pense qu'on va le retrouver à l'avant, et peut-être également Adrien Petit.
Adrien Petit, oui, qui marche bien.
Costaud pour les Flandres, mais pour Paris-Roubaix, ça devrait plus leur convenir.
46e des Flandres, Adrien Petit, mais ouais, il était...
Mathieu Ladanius, on sait qu'il préparait sacrément ce Paris-Roubaix.
Mathieu Ladanius, que je n'ai pas vu au classement, mais il faudra vérifier si...
Il a abandonné.
On va vérifier ce qu'il
a fait. On sait qu'il avait fait de Paris-Roubaix son objectif aussi. Donc,
Mathieu, qu'on surveillera bien évidemment tout particulièrement. D'autres sentiments avant de passer un petit coup de fil à Fred Guédon dans quelques minutes.
Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas.
Oui, Benjamin.
Vas-y, Guillaume.
C'est ce que je disais. Faut pas oublier que Tour des Flandres et Paris-Roubaix, c'est pas du tout les mêmes courses.
Non.
Même si c'est vrai que ceux qui sont devant autour des Flandres seront sans doute devant, mais il y en a qui peuvent tirer leur épingle du jeu parce qu'on n'a pas les monts à passer. La plupart des coureurs utilisent un petit plateau de 46 dents, donc ça prouve qu'il n'y a aucune bosse à franchir. Donc c'est vrai qu'on a des Français qui peuvent jouer le jeu.
Et puis ils sont plus motivés, plus à l'aise sur les pavés de Roubaix. J'ai l'impression, bien évidemment, c'est dans la culture pour quelques-uns, mais c'est vrai qu'il y a des coureurs expérimentés, notamment chez AG2R avec Gaudin qui a déjà fait une place, avec Turgot qui avait fait un podium. Souvenez-vous, il est dans cette équipe également. C'était en 2012, il me semble. Ça va être intéressant. Et en plus d'AG2R, de Direct Energy et de FDJ, il y aura aussi Fortuneo avec le champion de France Yvan Tronet et un certain Francis Mouret.
Eh oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas, Francis, ça peut être intéressant de le voir évoluer.
Ça passe, Benjamin.
En effet. Oui, ça dépendra des conditions. C'est vrai que Francis Mouret, pourquoi pas. Et puis je crois qu'il y a également Delco Marseille sur cette course.
Exactement.
Au moins
d'aller échapper. Delco qui est invité, il ne manquera pas l'échapper, je pense, avec Yannick Martinez qui sera notamment aligné, Benjamin Giraud, et après il y a également un Espagnol, un Norvégien, un Letton et Siski Vicius. Donc intéressant de voir évoluer ces équipes françaises. On va suivre ça, bien évidemment. Messieurs, Benjamin.
Oui, non, juste avant de... Pour parler d'autre chose vite fait que de Paris-Roubaix, saluer la superbe victoire de Marc Fournier sur le circuit de la Sarthe en échappée. C'est sa 6e course pro. Il a été malade tout le début de saison et il remporte donc la première étape. Il est néo pro. C'est 5e du chrono cet après-midi. Je pense qu'il est bien parti pour remporter le circuit de la Sarthe. Donc encore un nouveau gros moteur français, un peu à la couverte peut-être... à la personne de Marc Fournier.
Ouais, Marc Fournier, Julien, quoi, pas forcément croisé dans les courses amateurs du Sud, si ça te parle?
Non, enfin, pas du Sud même, non. Mais après, au niveau des Coupes de France, ici, il a toujours été bien placé. Mais si je ne me trompe pas, il se court au cours qui vient du team Pro Emo, si je ne me trompe pas, Benjamin, tu me confirmes? Non?
Je ne te confirme pas, je t'avoue que je ne sais pas.
Il me semble, fin de mémoire, enfin bon, je sais que j'ai déjà vu à plusieurs reprises dans les classements et c'est un coureur qui marchait Bon, puis, je veux dire que là, 5 au chrono, si tu marches pas là, voilà.
Ouais, puis il a fait un sacré numéro au circuit de la Sarthe en s'échappant. Puis, ça donne peut-être raison aussi à Marc Madiot qui disait qu'il fallait peut-être réduire le nombre de coureurs. Je crois que le circuit de la Sarthe, il n'y a que 6 coureurs par équipe. Et ben voilà, ça. Comment ?
C'est ça, je disais.
Voilà, donc ça permet peut-être une course un peu plus débridée, et ben une échappée peut-être d'aller au bout, ce qui n'est pas le cas sur les autres courses où ben, tout est verrouillé. Mais bon, chapeau Marc Fournier, parce qu'il a fait un sacré numéro pour sa première année pro.
Après, donc, être passé par les rangs du CC Nogent-sur-Oise, notre ami Marc Fournier, qui a 21 ans. Petit clin d'œil avant la pause également à la victoire de Marcel Kittel sur le Grand Prix de l'Escaut devant Cavendish et Greipel, excusez du peu, on se croirait 1 juillet. Mais voilà, ça promet en tout cas un super Paris-Roubaix. On va en parler dans quelques instants avec Fred Guédon, qui va être avec nous en direct. Vous pouvez bien évidemment lui poser vos questions sur le Twitter, @radiovélo31, sur la page Facebook de Radio Vélo également, et bien évidemment aussi, pour vraiment répéter bien évidemment un certain nombre de fois, nous revenons dans quelques instants après la première coupe pure de Radio Vélo, juste le temps de saluer notre ami Benjamin. Merci d'être passé, Benjamin.
Avec plaisir, et un dernier mot, c'est juste pour parler du Pays Basque. Je trouve que Thibaut Pinot est de plus en plus impressionnant, et je pense que là vraiment on a un Français qui gagnera un grand tour dans sa carrière.
Il était quoi aujourd'hui? Il a attaqué dans le dernier col à 8-9 km de l'arrivée. Ça a bien secoué. Sanchez a attaqué par derrière aussi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, mais les attaques se fusent comme au
coup d'un. Il ne faut pas qu'il perde de tape. Il faut tout faire cette année. Là, même le Tour du Pays Basque, il y a une chrono à la fin.
Non, mais il se bagarre, il va aller chercher. Quoi. Je veux dire que les Sky roulaient plein beau pour revenir sur le devant. Il est quand même attaqué quasiment presque au sommet. Et c'est vrai qu'on le voit très à l'attaque à l'avant.
Merci Benjamin, on se dit à très bientôt. Après les pavés de Roubaix, profite bien des commentaires de France Télé comme tous les dimanches.
Mais bien sûr, tu as vu comme Adam parlait bien l'anglais.
Oui, non, mais il faut pas se moquer, mais j'aurais peut-être pas fait mieux, mais du coup moi je l'aurais pas fait.
Dans ce cas-là, il ne faut rien dire, il faut pas essayer de traduire un hommage pour les deux coureurs décédés. Hein. J'étais bien la semaine dernière. C'est incroyable. Quoi.
Mais je crois qu'il n'y est peut-être pas forcément dimanche à Roubaix, parce qu'ils ont annoncé qu'il y a ses copains là, qui seront là. En plus, c'est non-stop, hein, c'est du départ jusqu'à l'arrivée. Donc, à peine le temps d'allumer le barbecue pour les suiveurs. Ça va être très, très difficile ce dimanche. Je souhaite bon courage à tous les cyclistes qui vont être devant leur écran. Bon, merci.
C'est ta radio.
Pop, rock, sport. En exclusivité, le jeudi à 19h. Le samedi 20h, ainsi qu'en podcast.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là. J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas. Carla retourne, Carla retourne, retourne là.
De retour dans Radio Vélo après cette première partie d'émission. On est revenu sur le Tour des Flandres et également on s'est projeté sur Paris-Roubaix. Ben justement pour Paris-Roubaix, qui de mieux pour discuter que Frédéric Guédon, le dernier vainqueur français en date de Paris-Roubaix et le directeur sportif adjoint de l'équipe FDJ. Frédéric, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, ça va, ouais. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir et merci de nous faire le plaisir d'être avec nous dans Radio Vélo. On vous avait eu il y a quelques années et puis le temps est un petit peu passé. Et puis c'est avec plaisir qu'on vous retrouve avec cette casquette de directeur sportif adjoint, c'est ça, de la FDJ. C'est comme ça qu'il faut vous présenter ?
Oui, si vous voulez, ouais, directeur sportif.
Directeur sportif de l'équipe FDJ, et du coup on imagine qu'il y a un rôle tout particulier de Frédéric Guédon à ce moment-là de l'année. On imagine que l'équipe vous le demande.
Oui, ouais, après, je suis pas le seul, puisqu'on est trois directeurs sportifs très, très motivés par Paris-Roubaix. Donc, déjà, Marc Madio, qui lui a brillé aussi sur Paris-Roubaix, qui est le manager de l'équipe. Et il y a Marcel Gaillan, qui adore ses courses. Lui ne l'a pas gagné, mais a toujours fait des bons classements. Et puis, il y a moi, en tant qu'ancien vainqueur aussi, et qui adore cette course. Donc, on est trois directeurs sportifs très motivés pour cette course, ouais.
Julien, une question peut-être pour Frédéric. Donc peut-être on précise, il est en route. Du coup, Frédéric, il a pris quelques minutes pour s'arrêter et c'est direction le Nord parce qu'il y a des reconnaissances demain, c'est ça, avec l'équipe FDJ.
Ouais, on fait une partie du parcours demain, donc ça se fera en deux groupes puisqu'il y avait 5 coureurs aujourd'hui qui étaient au Grand Prix de l'Escaut, donc qui eux feront un peu moins, et puis il y a 3 autres coureurs qui n'ont pas couru donc aujourd'hui qui eux feront un peu plus. Ouais.
Julien.
Oui, bonsoir Frédéric. Moi, je revenir un petit peu sur la partie matérielle qui a beaucoup évolué quand même depuis toutes ces années. Mais qu'est-ce qu'il faut pour gagner Paris-Roubaix?
On parle que matériel ou ce qu'il faut pour gagner
Non, malgré que le matériel ait quand même évolué, mais qu'est-ce qu'il faut pour un coureur pour le gagner, quoi?
Ah ouais. Déjà, il faut avoir envie, déjà. C'est une course qui est spéciale, hein. Il n'y en a qu'une comme ça par an. Rouler sur des pavés, c'est assez spécial. Donc déjà, l'avoir bien dans la tête. Après, être au top physiquement. Ne pas avoir de malchance, parce que c'est une course où on peut avoir beaucoup de malchance. Et puis avoir aussi de la chance, bien sûr. Mais ça, c'est dans toutes les autres courses. Et puis le matériel aussi joue aussi. Ouais. Parce qu'il faut des bons pneumatiques, parce qu'il y a beaucoup de chance ou de crevaison, donc faut que tout aille bien dans le bon jour, le jour J. Ouais.
Julien,
bien sûr, physiquement.
Ouais, Julien, Guillaume, peut-être par rapport au matériel, une question. On parlait tout à l'heure d'ailleurs de la météo, peut-être on lui en reparlera à Frédéric.
Ouais, est-ce que bonsoir Frédéric. Au niveau pneumatique, justement, c'est un des points primordiaux sur le Paris-Roubaix. Est-ce que tu sais qu'est-ce que vont utiliser les coureurs au niveau des sections et quelle pression? Est-ce que ça change en fonction de la pluie, du sec, etc.?
Ah ouais, ça change beaucoup. Déjà la section, nous on risque d'utiliser des 28. Donc c'est vrai que là-dessus ça évolue hein, d'année en année presque, parce que moi je me rappelle, c'est déjà vieux, moi c'était du 25 et c'était déjà du costaud. Maintenant ils prennent du 25 pour rouler sur le macadam, sur les routes, et à Roubaix là ils vont utiliser du 28 en pression. Bon, ça dépend aussi un peu des gabarits, mais ça va tourner aux alentours de 6 kilos hein, voire 5,5 à l'avant et du 6,5 à l'arrière. Et s'il pleut, comme annoncé, parce qu'ils annoncent des averses, ça risque de baisser un petit peu. Ouais. On risque d'être un peu moins gonflé. Mais après, c'est un choix aussi des coureurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les pavés non plus. Hein. Il y a quand même de la route. Donc, comme on dit, il ne s'agit pas d'être collé sur la route et d'être bien sur les pavés. Et puis, le contraire aussi. Donc, c'est toujours un choix délicat, la pression des boyaux.
Julien ?
Oui, qu'est-ce que ça mobilise comme personne ? Parce que je sais que, et on le voit, il y a toujours des voitures, même si elles vont couper d'un secteur à un autre, mais on voit toujours des mécanos d'équipe avec des roues par-ci, par-là. Ça, il doit y avoir un nombre important au niveau de la structure, non ?
Ah ouais, ça c'est énorme. Ça c'est Marcel Gaillan qui gère ça. Mais c'est vrai que je crois que c'est un nombre de 60 à 70 paires de roues, je crois, spécialement pour Roubaix. Les personnes, il y en a beaucoup. Ouais, même si maintenant, c'est de plus en plus difficile de faire plusieurs secteurs. Il y a énormément de monde, mais le jour J, on doit bien être au moins une trentaine, rien que sur les secteurs pavés. Et puis tout de suite, les jours d'avant, comme à partir de demain, on va tourner à 3-4 mécanos, à 4 assistants. Là, on va être 3 directeurs sportifs. Vous avez l'attaché de presse qui va être là aussi. Donc, il y a beaucoup plus de monde les jours avant et même le jour J. Ouais.
Par rapport au jour J, c'est vrai que l'un des enjeux également de la semaine, c'est de récupérer un Arnaud Démare en bonne condition, on imagine, après sa chute au Tour des Flandres. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être quelques nouvelles d'Arnaud, Frédéric? On sait que la décision aura lieu dans les prochains jours, c'est ça?
Ouais, là je l'ai eu tout à l'heure, parce que moi je devrais le prendre justement à Amiens, parce qu'il devait faire la route avec moi pour faire la reconnaissance pour demain. Bon, il se sent pas encore capable de faire la reco, donc on a repoussé. Il me on se rappellera demain soir, voire éventuellement s'il peut faire la reco vendredi. Mais ça semble difficile. C'est vrai qu'il a quand même pris une belle chute. Il a quand même eu une belle chute dimanche au Flandre, donc il est bien épluché. C'est pas des blessures très très graves. Hein. Il n'y a rien de cassé, puisque ce matin il a même été passé une radio parce qu'il se peignait des côtes. Donc il n'y a rien de cassé, mais je pense que ça va être très très chaud s'il est au départ de Paris-Roubaix. Ouais.
Justement, mais par rapport à cette édition de Paris-Roubaix, on imagine qu'elle est préparée depuis quelques semaines, quelques mois même, avec les coureurs les plus motivés du groupe FDJ pour cette course. Est-ce qu'il y a des coureurs plus que d'autres que vous sentez qu'ils ont l'esprit Paris-Roubaix? On sait que vous savez ce que c'est l'esprit Paris-Roubaix, Frédéric.
Oui, voilà, j'ai un groupe qui est motivé pour Paris-Roubaix. Bon, c'est sûr que si Arnaud n'est pas présent au départ, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses pour nous, puisque l'équipe tournait vraiment autour d'Arnaud. Après, faudra qu'on voit, hein, faudra que j'en parle avec Marc et puis Marcel Gaillon, voir comment on va procéder. Bon, c'est vrai que on a quand même une équipe qui reste très, très motivée, mais bon, ça fait pas non plus, ça fait pas tout, donc va falloir qu'on voit. Mais c'est sûr que si Arnaud n'est pas au départ, on perd très, très gros.
Les Français en général étaient, c'est vrai, pas forcément vus lors de ce dernier Tour des Flandres. On imagine que vous l'avez suivi très attentivement, ce Tour des Flandres. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, aussi bien au niveau des favoris que dans l'ensemble? Quel est le sentiment de Frédéric Guédon sur ce Tour des Flandres 2016?
Ce Tour des Flandres 2016 aura fait, je pense, beaucoup de dégâts, parce que, bon, c'est pas officiel, mais Arnaud, pour l'instant, on sait pas s'il sera au départ de Roubaix. J'ai vu que Bennett d'un loto ne sera pas non plus. Van Avermaet non plus, et Mingaard non plus. Donc, ça a fait déjà, dans un premier temps, pas mal de dégâts pour Paris-Roubaix. Après, pour les favoris, on n'est pas surpris, hein. On retrouvera en première ligne Cancelara, je pense. Et peut-être un Peter Sagan ne sera pas loin, mais le grand favori sera Cancelara. Après, une équipe Etix qui est là, mais qui est moins forte que les autres années. Après, Paris-Roubaix, on sait que c'est leur course, donc on pourra s'en méfier aussi. Après, il y a un Tim Van Marck qui est fort aussi, donc ça, ce sera les favoris. Et puis, du côté français, c'est vrai que pour sortir un nom aujourd'hui, ça reste difficile, puisque, faut l'avouer, on a été un ton en dessous à Paris-Roubaix, autour des Flandres.
Et puis Peter Sagan, Paris-Roubaix, pour vous, ça peut être plus compliqué qu'une autre course pour lui?
Plus compliqué, parce qu'il y aura Cancelara, je pense.
Oui.
Je dirais que ça va être plus compliqué, parce que je vois mieux Cancelara que Peter Sagan, mais logiquement, il sera dans les billes, ouais. Il sera dans les billes, ouais.
Julien?
Ouais, moi j'ai une question un peu plus technique. Quand on parle de rouler en haut du pavé, qu'est-ce que ça signifie?
C'est parce que les secteurs pavés sont légèrement un petit peu bombés, donc souvent il y a une petite bande de roulement, c'est un peu exagéré, mais rouler en haut du pavé, c'est là que c'est le meilleur généralement. Et puis c'est un petit peu plat, parce que rouler sur les parties descendantes, sur les côtés, là, c'est un peu plus abîmé. Et puis, si c'est un peu humide, on a tendance à glisser aussi. Donc, et puis après, les bas-côtés, souvent, c'est abîmé. Mais le haut du pavé, c'est l'endroit le plus beau sur le secteur.
Bon, mais ça promet en tout cas une très belle course. On va vous laisser la peaufiner, rejoindre l'équipe. Donc là, de mercredi soir jusqu'à dimanche soir, du coup, c'est 100% Roubaix, c'est ça, Frédéric?
Ouais, c'est ça, ouais. C'est 100% Roubaix. Jusqu'à dimanche, c'était le Tour des Flandres. Et puis une fois que le Tour des Flandres finit, on se penche petit à petit vers Roubaix. Et puis à partir d'aujourd'hui, c'est tout pour Roubaix. Ouais.
Ok, bon, mais on vous souhaite, en tout cas, on vous remercie une nouvelle fois d'avoir pris un petit peu de temps pour venir donner des nouvelles d'un Radio Vélo. Et puis on vous dit à très bientôt. Pour vous, le rôle de directeur sportif, ça sera toute l'année. Vous savez déjà les événements suivants après Paris-Roubaix?
Oui, je ferai le Pro Broléon donc dimanche d'après. Et après, je m'en irai au Tour d'Italie.
D'accord, bon, un beau programme. Un beau programme en tout cas.
Ouais, ça va.
Bon, on vous souhaite une bonne continuation, Frédéric, et merci de votre disponibilité. À bientôt.
Merci à tous, merci, bonne soirée.
Merci, bonne soirée. Bientôt. Au revoir. C'était donc Frédéric Guédon en direct dans Radio Vélo.
C'est vrai que c'est pas tout le monde comme ça. Ouais, quand même.
Il s'arrête sur le bord de la route pour appeler Radio Vélo.
C'est une autre génération et ça fait bien sûr chaud au cœur Frédéric Guédon qui est vraiment un champion humble, vraiment simple.
Et il avait été pareil là, quand on l'avait eu il y a 4 ans, c'était pareil. Aussi
on l'avait eu juste avant son dernier Paris-Roubaix, je me souviens, à l'époque Radio Occitanie, c'était il y a fort longtemps. Frédéric Guédon qui donc prépare cette équipe FDJ de la meilleure des façons qu'il peut avec l'équipe qu'il a. Et c'est vrai que l'un des enjeux, ça aurait été d'avoir un Arnaud Démare en pleine forme. Et suspense.
Ça semble mal engagé. Apparemment, d'après ses dires, c'est vrai que c'est vrai qu'après, il a pris une sacrée pelle. Donc, si c'est pour être à 50% de ses moyens, ce Paris-Roubaix.
Tu peux pas. C'est pas possible.
Ouais. Et moi, ce que j'ai noté, c'est que pour lui, Peter Sagan, un cran en dessous, en tout cas pour Paris-Roubaix, Cancellara, ça serait lui qui serait vraiment le favori.
Ouais, ça m'oriente pour mes pronostics, parce que je crois.
C'est vrai, mais enfin, quand tu vois Sagan tout seul rouler devant contre deux derrière et que derrière ne rentre pas, peut se poser quand même la question.
Avec Cancellara est revenu à 12 secondes, il n'a pas réussi à combler le trou.
Il n'a pas réussi à rentrer.
Sagan avait l'air facile, entre guillemets, mais.
Si jamais il est fait mauvais temps dimanche, je pense que c'est plus en la faveur de Sagan que de Cancellara, quand même. Il est plus accro. À mon avis, et je pense qu'il sera plus pour lui. Après, est-ce que Sagan était déjà au top et que peut-être il est en phase descendante et que Cancellara c'est le contraire, lui en phase ascendante, on ne sait pas, mais.
Ça promet une course très disputée.
Avec des équipes outsiders derrière, ça promet que ça soit très très disputé.
Et c'est pas tous les ans qu'il y a le doublé, de toute façon. Faire un doublé, Tour des Flandres, Paris-Roubaix.
À mon avis, il va pas le lâcher, celui-là.
Mais en même temps, c'est pas tout le temps qu'il y a des Peter Sagan au top, avec comme plus le maillot de champion du monde sur le dos.
Parce qu'il va vouloir la chercher, celle-là aussi.
Il va vouloir la chercher, en tout cas, Sagan.
Je le vois bien, Wheeling, sur le vélodrome de Roubaix.
Ah, ça serait beau, en tout cas, Sagan-Cancellara. Le match est annoncé, on parlera un petit peu de nos favoris. En fin d'émission, on va bifurquer vers la chronique du cyclisme amateur, avec notamment la minute du comité. C'est pas la chanson, voilà.
C'est plus dans le rythme, ça. Hein.
C'est vrai que quand on va dans le Nord, on aurait pu mettre aussi notre ami Richard Fredon, quand même, qui
est. C'est pas faux.
Qui est du Nord. On va parler de descente.
C'est plus le style de musique qu'écoutent un petit peu les descendeurs, un petit peu pour se motiver un petit peu, se mettre un petit peu dans le rythme. C'est un petit peu la musique comme ça, très très rythmée, pour vraiment.
Et dans la minute du comité, du coup, on parle de quoi, Julien? De VTT
On va parler de VTT descente. Mélanie va nous présenter la personne qu'on va avoir au téléphone. C'est la deuxième année, c'est ça, qui est organisée, cette fameuse descente du Pic du Gers à Lourdes.
Voilà, c'est ça. Donc au téléphone, on a monsieur Patrice Bordère, donc le président de Lourdes VTT, donc du club organisateur de cette première manche, la Coupe du Monde de VTT descente.
Bonsoir, comment ça va?
Bonsoir, oui, ça va. On n'est pas loin de l'échéance, donc ça commence à.
La pression monte.
La pression, oui.
Et c'est quoi? C'est la deuxième fois que vous organisez une manche, ça?
Voilà, on avait postulé, après avoir fait une Coupe de France en 2011, on a postulé pour faire cette Coupe du Monde, on a été retenu. Et cette année, on a repostulé et on a été une nouvelle fois retenu. Voilà.
C'est le même circuit que la Coupe de France, il y a eu des modifications au niveau du parcours
Non, on est monté de niveau. Une Coupe de France reste un niveau adapté aux Français. La Coupe du Monde de suite est plus spectaculaire, surtout plus rapide, plus court.
D'accord.
Et plus technique, on va dire.
Donc, ça part toujours pareil, le départ est toujours au même endroit, toujours.
Voilà, c'est une des rares choses qui reste à la Coupe de France, c'est le départ, avec la passerelle de départ.
Ouais, la passerelle.
Et puis voilà. Voilà. Et puis après, on a utilisé une piste, on a créé réellement l'an dernier une piste complètement nouvelle.
D'accord.
Mélanie, peut-être quelques questions pour cet événement exceptionnel du coup dans la région.
Oui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du déroulé, parce que je pense que la plupart de nos auditeurs ne connaissent pas ou peu le VTT descente et le déroulé d'une Coupe du Monde avec des phases de qualification, je crois, et une finale, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc, en réalité, une match de Coupe du Monde se déroule sur 4 jours. On démarre demain avec l'accréditation des pilotes et une reconnaissance à pied. Ils passent beaucoup de temps sur la piste pour regarder leur trajectoire, regarder les difficultés éventuelles. Voilà. Ensuite, le vendredi, ils vont faire des essais de toute la journée, des essais par groupe, par niveau, en finissant le soir par des essais chronométrés. Ensuite, nous allons passer le soir encore avec une reconnaissance à pied, parce qu'ils veulent aller sur la piste, les pilotes. Le samedi, là, ça commence à devenir un petit peu le gratin, on va dire, des essais encore le matin jusqu'à 11h. Et puis, à partir de 12h30, les qualifications. Sachant que les qualifications, il y a 260 pilotes inscrits sur cette Coupe du Monde, et il n'y aura que 80 élus pour la finale du dimanche. Donc ce sont des essais où ils lâchent tout, les gens, il faut comprendre, quand on vient d'Australie, du Canada ou cette année d'Iran, donc on voit qu'on a fait tout ce voyage, on a envie de se qualifier pour le dimanche. Et le dimanche c'est la grande fête avec la finale des garçons juniors d'abord, puis des filles et puis les hommes qui commenceront à 14h.
Justement, comment on s'y prend pour faire venir beaucoup de monde le dimanche pour découvrir ce spectacle? Il y a aussi une notion de découverte quand vous lancez la communication.
Voilà. Alors nous, la communication, bon, on travaille avec pas mal de biais, notamment les réseaux sociaux. L'an dernier, on a eu 30 000 personnes sur le site. Avec, il faut savoir que le spectacle est entièrement gratuit. Donc on peut se dérouler, voir. Un paddock avec toute la haute technologie de 12 000 m2. Vous voyez les meilleurs pilotes du monde. Là, on a Mavic, on a Shimano, on a GoPro. C'est une curiosité en soi. Ensuite, l'idéal d'arriver le vendredi pour voir un peu certains endroits qu'on repère, pour pouvoir aller voir comment ils passent les pilotes et puis aller voir comment ils passent vite le dimanche. C'est assez extraordinaire. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un spectacle entièrement gratuit. Donc on peut venir en famille, on peut faire de la balade en montagne, ça permet de faire pas mal d'activités. Et derrière, découvrir la haute technologie. J'appelle tout souvent que le VTT descente, c'est la Formule 1 du vélo. Voilà, vous avez du carbone, vous avez de la suspension, mais vous avez aussi du pneumatique. Voilà.
D'accord. Justement, mais par rapport à la descente, on a un spécialiste matériel qui suit un petit peu le monde pro. Mais au niveau du matériel, est-ce que toutes les marques sont présentes du coup, ou est-ce qu'il y en a certaines plus que d'autres qui sont spécialisées?
Non, il y a beaucoup de marques présentes, mais on va dire par rapport à du vélo de route ou des choses comme ça, ou du BMX, il y a vraiment des marques différentes. Il y a des gens qui viennent, par exemple, des marques typées descentes qui sont Santa Cruz. On a une grosse marque comme La Pierre, qui est, elle, dans tous les domaines du vélo, mais qui est là bien présente. La Specialized, également, qui sont dans tous les vélos, qui est présente. Trek, bien sûr, qui est un énorme camion. Là,
Rocky Mountain, toujours aussi, ou pas?
Oui, Rocky Mountain, Moondriker. On a Comensal, bien sûr. Et on a un paddock, il y a 120 exposants sur le paddock, donc c'est déjà en soi une belle balade de dimanche.
Donc, Mélanie, peut-être?
Oui, j'ai vu sur votre Facebook, vous avez prévu pas mal d'animations sur le week-end, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Parce que c'est aussi une grosse fête, je crois, que vous organisez après les épreuves.
Voilà, alors, l'an dernier, voilà, on a corrigé un petit peu notre façon de fonctionner. L'an dernier, on avait un petit peu décentralisé des animations musicales pour faire vivre un peu différemment la ville, mais on s'est aperçu que c'est mieux de faire à l'intérieur du paddock. Donc là, on a fait une zone d'activité qu'on appelle la zone d'activité np.com, où il y aura du trial avec un régional qui est Jordi Véder. Il y aura également Art Bike du spectacle de Freelance et de BMX. On aura une performance de pole dance performance avec Marion Kramp qui est mondialement connue. Qu'est-ce qu'on aura encore? On aura un spectacle pyrotechnique avec Akuma qui déambulera avec son feu. Puis pas mal de musique avec le car event Red Bull et le DJ Bison Vince. ainsi que Six Week, des groupes musicaux. Et puis, tout ça, ça passera à l'intérieur carrément du paddock. On va nourrir ça, en gros, de 17h à 22h, voilà, pour animer la fête.
Peut-être un mot sur où on peut suivre ces réseaux sociaux, l'adresse, le nom pour suivre ça sur les réseaux sociaux.
Ouais, ben c'est lourdevtt.com, Coupe du Monde, lourdevtt, voilà, vous allez sur le site lourdevtt.com, c'est une chose. On a aussi quelque chose qui est original et qu'on a lancé l'an dernier, il y avait énormément de déguisements. Cette année, il y aura énormément de monde, ça on en est convaincu, puisqu'on voit le relais de notre page Facebook. On a 5000 amis, hein, c'est pas mal pour un petit club. Et derrière, on aura un concours de déguisement dont là venait, si je peux dire, déguisé, parce qu'il y aura une semaine à gagner en passion complète au ski à Cotteret, et puis un gros week-end pour l'équipe la mieux déguisée de supporters, le supporter, le fan de la Coupe du Monde sera récompensé sur le paddock le samedi, le dimanche soir.
Mélanie,
juste une dernière question, est-ce que vous savez s'il y a des pilotes régionaux d'engagés?
Oui, alors, nous, on a l'avantage et le privilège d'avoir quand même des bons descendeurs. Il y a peu de descendeurs, peut-être, de gros niveau dans le Midi-Pyrénées, mais on a quand même des bons. On aura la championne du monde junior, qui est Marine Cabirou, qui est de l'Aveyron. On aura un jeune aussi de l'Aveyron, qui est son frère. Et puis, on aura un local, un jeune lourdais, qu'on a formé à l'école VTT du club. Il s'appelle Chouming Peltro. Il était troisième français junior l'an dernier. Et il s'alignera pour sa première Coupe du Monde junior à Lourdes. Voilà, pour les régionaux, on aura des régionaux aussi qui sont partis dans d'autres cieux, dans les Alpes, comme ça, qui vont nous représenter. Mais on a en gros une dizaine de gens de la région Midi-Pyrénées et pas mal du Languedoc-Roussillon, puisque maintenant on a la région Languedoc-Midi-Pyrénées.
Ouais, l'époque Pédemanot, tout ça, c'est fini, quoi.
Ben, Pédemanot, ça avait été l'ouvreur l'an dernier, puisqu'on a voulu faire un petit clin d'œil à lui, parce que c'était un membre du club, et puis c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup au club. Et voilà, donc c'est vrai que c'est fini, son niveau était très, très, très bon, mais voilà, l'époque, ça a évolué. Par contre, son frère sera là dans les exposants, il fait une marque de suite, là, de Four Bike, il sera présent, ainsi qu'une quinzaine de commerçants.
Et là, ça promet un très beau spectacle. Ouais.
Si vous
ne
savez pas quoi faire, direction Lourdes, Pic du Gers, c'est magnifique. Moi, je l'ai déjà fait à descendre, c'est magnifique avec le télécabine pour monter, là, la petite. C'est toujours pareil, non? Ça monte pareil?
Ouais, on a un funiculaire qui monte, c'est véritablement une curiosité en soi. Et ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que vous pouvez le voir, le live, parce que c'est un live, c'est un direct live. L'an dernier, c'est 34 millions de visiteurs sur le redbulltv.com sur l'événement de Lourdes. Donc, c'est une grosse audience. Donc, je vous invite à le regarder si vous voulez le voir en live sur le dimanche, la grande finale, à partir sur redbulltv.com.
Eh bien, ça promet. Merci en tout cas d'être passé nous faire un petit coucou d'un Radio Vélo. On vous souhaite bien évidemment un très bon événement et à très bientôt.
Et merci à vous.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Et voilà pour le clin d'œil et bien au VTT.
Ça fait longtemps que le club de Lourdes existe en tant que club de VTT et qu'ils organisent déjà. Il y avait déjà à l'époque déjà un championnat régional. Il y avait Brassac, il y avait le Pic du Gers. Je crois qu'il y en avait une troisième déjà. Ils avaient fait déjà un gros travail sur cette fameuse descente qui était assez impressionnante. Et voilà, elle ne pouvait que monter de niveau et le club était très volontaire. Et là, Coupe de France en dernier, Coupe du Monde. Ouais, c'est le saumon, quoi. Ils ont fait une piste spécifique, très spectaculaire, très très rapide. Ouais, les gens qui ont vraiment envie de voir du spectacle gratuit, allez-y, c'est super, quoi.
Mélanie, d'autres infos rapidement,
une petite info. On a une sélection espoir qui part ce week-end.
Ils auraient trouvé quelqu'un pour encadrer.
Oui, ils ont trouvé. À la première manche de la Coupe de France espoir, donc c'est la classique sauveterre. Donc on a Mathieu Caramel, Axel Crochard, Cole Roman, Roux Corentin, Vérardo Rémy et Ginesté Hugo qui partent dans le Béarn pour représenter la région.
On leur souhaite bonne chance en tout cas.
Il y aura la deuxième épreuve des écoles de vélo ce week-end à Albi. Il y aura la première manche du Grand Sud-Ouest pour les cadets. Il y a des belles courses. On avait ce week-end, il y avait la deuxième étape du Tour du Temps de cadets. Voilà, si ça continue, ça va s'en plaindre.
Ça va s'en plaindre. Allez, la chronique Matos avec notre ami Guillaume qui est avec nous comme chaque semaine et que vous retrouvez sur son site Matos Vélo.
Matos Vélo.
comme la semaine dernière, je me souviens, chronique bien chargée. Il y avait beaucoup d'actualités. Oui. C'était ton retour, hein, ton comeback,
ouais,
je crois, la semaine dernière.
J'étais absent très longtemps. C'est pour ça que c'était très chargé.
Tout plein, absolu. Ouais.
Et ça continue cette semaine. Tu t'es remis à faire des petits tests. Il y a eu un temps mitigé ces derniers jours.
Je cherche toujours une roue Power Tape. On devait m'en prêter une, puis je ne me l'a pas donnée. Donc, si jamais quelqu'un en a une par là, je suis preneur.
Ah, faut que je demande à quelqu'un. On va essayer de te retrouver ça.
Il y a des nouveautés, Guillaume, ouais. Parce qu'il y a des nouvelles bricoles, on t'a envoyé ou tu,
des
ou
bricoles, tu... C'est pas des bricoles, on t'a tout à l'heure, on parlait de technologie, oui, de formule, c'est pas
du tout. Des objets exceptionnels.
On va
Guillaume.
Surtout parler de nouveautés. Trek qui a présenté officiellement enfin son nouveau Doman SLR 2016. C'était plus trop une surprise que Fabian Cancellara roule dessus depuis Strade Bianche. Je pense qu'ils auraient préféré le présenter avec une victoire de Fabian. Bon, ça s'est loupé de peu, mais
c'est entendu. Mais
voilà, c'est le tout nouveau Doman. Pour ceux qui connaissaient la précédente version, il y avait un système. Alors, amortisseur, c'est pas le mot.
De filtration.
Voilà, de filtration sur.
Comme avait fait Specialized, un petit peu pareil, voilà. Sur les haubans et les fourches.
Là, c'était au niveau de la tige de selle. Donc ils ont amélioré ce système parce que le système maintenant est réglable en fonction du poids du coureur. Et ils ont mis ce système.
C'est pour toi, Nico.
Le système ISOSPEED, donc comme ça s'appelle, ils l'ont mis aussi à l'avant. Donc voilà, on a une filtration à l'avant et à l'arrière du vélo. Donc apparemment, ça réussit plutôt bien pour l'instant.
On peut penser que c'est ce qui va être utilisé pour Paris-Roubaix.
Ah, c'est enfin quasiment certain. C'est vraiment un vélo destiné pour les classiques, dans en ce moment. Donc je pense vraiment qu'il va utiliser ce vélo. Et je sais que Fabian souvent utilise des boyaux de 30 mm. Donc voilà, je pense que c'est un vélo qu'il va utiliser. Donc j'ai pas eu l'occasion ni de le voir en vrai ni de le tester, mais à voir dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
Ça promet en tout cas.
Voilà. Ensuite Shimano qui a présenté aussi des freins à disque sur la gamme Tiagra. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment en dessous du 105, qui c'est encore un groupe en 10 vitesses, mais voilà, Shimano propose des freins à disque hydrauliques sur cette gamme-là. J'ai publié l'info le 1er avril, mais c'était une vraie info. Il y avait trois infos ce jour-là et celle-là était bonne.
Donc, quel déconneur.
Non, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cru. Mais si Shimano propose bien donc les freins à disque.
En fait, je crois qu'on peut plus proposer une info concrète le 1er avril.
Ben non, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je la publie ou pas, parce que
moi, chaque fois que j'ai lu quelque chose quelque part, je relisais deux fois, quoi.
Ouais, même Marion Rose y est cru, mais non.
Non, ça c'est. Bon. Guillaume a eu de l'effet avec son poisson rouge, avec son poisson d'avril.
Et dernière chose, je vous ai parlé des Michelin Power, donc j'étais à la présentation presse, donc Michelin a avancé beaucoup de chiffres, etc. Et il y a Alban Lorenzini, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site Cycle et Forme qui les a testés. Donc lui, c'est vraiment un spécialiste pour les tests avec capteurs de puissance et tout. Il a déjà testé beaucoup de pneus. Et pour lui, ils arrivent très clairement en deux ou troisième position de tous les pneus qu'il a testés. Sachant qu'il y a le Vittoria qui est vraiment intouchable, le Vittoria Corsa SLR, ou non, Vittoria Corsa Speed, excusez-moi, mais qui est beaucoup plus cher. Et pour lui, c'est le Michelin Power et la référence en termes de compromis rendement-prix. Parce qu'on le trouve à peu près à 39-40 euros. Et apparemment, Michelin n'a pas menti sur tous les chiffres qu'ils ont avancés. Ils ont vraiment fait de très gros progrès au niveau du rendement. Donc en espérant que tout ce qui est crevaison et tout derrière, ça suive. Mais pour ceux qui veulent les pneus avec un très bon rendement, apparemment, voilà, les Michelin Power Competition, vous pouvez vous tourner vers ces pneus. Voilà donc pour les nouveautés, c'est tout pour cette semaine.
C'est déjà bien, c'est tout pour le moment. Merci Guillaume pour cette chronique matos. Tu reviens quand tu veux et puis tu continues, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Les petits débats, je sais que ça avait réagi notamment la semaine dernière avec tout ce que tu avais présenté. Il faut dire, il y en avait un paquet, il y en avait plein le coffre. Tiens, on va finir l'émission avec les petits pronos Paris-Roubaix.
Et les cons qui n'auront pas su dire non, nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Eh oui.
Alors, il faudrait peut-être trouver le bon poulain. Qui avait misé sur Peter Sagan la semaine dernière? Personne, bon, étant donné qu'on avait essayé.
Ouais, il s'est pété la clavicule, alors bon, du coup.
Van Avermaet, il t'avait mis, ouais.
Ouais.
Ouais. Non, mais on avait essayé des cotes intéressantes, bien que Kanchara était le favori des bookmakers. Là, cette fois, sur Unibet.com, mais c'est Peter Sagan qui est le favori à 3,25. Fabien Kanchara n'est pas loin, 3,75. Seb Van Marck, ça monte de suite à 7,50. Christophe à 10. Stibar à 12. Lars Boom à 15, 17 Terpstra, 18 Bounen, 19 Stannard, 23 Ossenhagen, Rowe, Demar est à 31, Greipel, Geraint Thomas, Rollins, Martens, Tuvien, Vandenberg, Benoît, non, il n'est pas là. Enfin, bref, vous me direz qui vous voulez et je vous dirai la cote à la rigueur. Je pense que votre favori, de toute façon, je l'ai déjà cité. Est-ce que vous allez prendre un risque pour jouer autre chose que Sagan ou Kanchiara, ou est-ce qu'on est dans un match? On va commencer par Mélanie.
Ouais, moi j'ai envie de parier sur Lars Boom parce que il est en forme et j'aime beaucoup, enfin, le style qu'il a sur les pavés. Et bon, c'est un coureur que j'aime bien. Et du coup, la cote, elle a combien?
Elle est intéressante, la cote. Et c'est vrai que parmi les cotes intéressantes et crédibles, c'est vrai que Lars Boom est un très très bon compromis. 15 contre 1, tu mets 10 euros, t'en gagnes 150, tu nous payes le resto. C'est très bien, Mélanie. Lars Boom a 15 contre 1 pour Mélanie et c'était sacré pari.
Ouais,
mais avec des gros rouleurs comme Vestra dans l'équipe, ça peut être pas mal. C'est un pari. Ouais, j'ai envie de dire. Julien.
Ben, Paris, après, vu ce qu'a démontré Sagan le week-end dernier, ça sera encore plus son terrain de jeu ce week-end si en plus c'est gras. Ben, je vois difficilement se faire battre par qui que ce soit. Il est en forme, il a largement démontré. S'il pleut, c'est un acrobate, je ne le vois pas par terre. Il peut être que comme dans un poinçon dans l'eau ce week-end.
Allez, Julien, tu mets 10 euros à 3,25, ça te fait à peine plus de 30 euros, mais ça te fera quand même un menu pour un soir, c'est bien.
Pour un champagne.
Voilà. Donc, Peter Sagan, ben oui, des fois, il faut savoir ne pas prendre de risques aussi et parier sur...
J'en ai pris beaucoup de risques, jamais gagné. Donc là,
voilà, tu peux pas miser sur Scarponi, là, c'est vrai
qu'il n'y est
pas. Guillaume, est-ce que tu vas miser, je sais pas, sur un Français, hein, ça paraît difficile.
Non, pour moi, ce sera Cancellara.
Ouais,
je pense que c'est sa dernière course.
Enfin, il va tout miser.
Je suis à peu près persuadé que s'il la gagne, il arrête là.
C'est incroyable ouais. Vu le niveau qu'il a, quoi. C'est...
Ouais, Bon, après, sauf accident, comme on a dit, Paris-Roubaix, c'est risqué, mais moi, je miserai tout sur Cancellara.
Le paquet.
En plus, ben voilà, il a une revanche à prendre. Voilà, il a une revanche à prendre.
On va prévenir de suite la famille de Guillaume qui mise tout sur Cancellara à 3,75. Donc, Guillaume, si tu paries ta maison, tu auras peut-être trois maisons. Voilà,
la maison n'est pas à moi. Donc, bon,
la voiture, est-ce que la voiture, ça peut.
Il n'a pas fait grand-chose.
Bon, d'accord, bref.
Les 4, ça a mis le compteur.
Allez, on va parier le vélo. Alors, du coup.
Et toi, Nico?
Ben, moi, je suis embêté parce que entre vos deux paris, j'ai beaucoup de mal à choisir. C'est vrai que quand on voit Peter Sagan ce week-end qui a vraiment tenu Cancellara jusqu'au bout, j'ai du mal à. Moi, je vais être pour Cancellara en tout cas sur cette course devant mon écran parce que j'ai envie de le supporter.
Ouais,
mais paradoxalement, je ne vais pas parier sur lui. Je parierais plutôt sur Sagan si vraiment il fallait faire un pari. Voilà. Non, je pensais, Julien, que tu allais prendre notre ami Stibar, hein, parce que c'est vrai que quand je repense il y a 12 ans,
oui,
c'était
c'est
quand
vrai,
même pas mal.
Mais
en même temps, il a pas trop flambé non plus ce week-end.
Ouais, il était pas trop là ce week-end. Et quand on voit Sagan, ce qu'il a fait ce week-end, sincèrement, ça aurait été quelqu'un qui serait pas forcément habile, à l'aise. J'aurais peut-être pas parié sur lui, mais sincèrement, Sagan.
Et si Géniez remplaçait Demar?
Ça serait sympa. On miserait sur lui. Mais c'est vrai que on mettrait Alex qui a gagné trop Broléon déjà.
C'est bien pour ça. Il avait dit que les pavés, peut-être que ça pourrait l'intéresser. Donc, jamais.
Non, mais après, c'est tout minuté. Ces équipes-là, faut pas improviser ce genre de choses. Surtout que si
deux Sagan, un Cancellara.
Ouais, je vois de Sagan.
Un Lars Boom.
Ouais, non, mais moi.
Allez, tu comptes pas, c'est ça?
Ouais, non.
C'est vraiment
beau. À choisir entre Sagan et Cancellara, je prends Cancellara.
Écoute, tu as parié Lars Boom, c'est le plus gros prono de la soirée. On t'invite au resto, Mélanie, si Lars Boom gagne. Voilà, c'est noté. Voilà, les auditeurs nous le rappelleront. Bon, dis pas si c'est un kebab ou un vrai resto. Bref, allez, sur ce, on conclut.
Bon Paris-Roubaix.
Bon Paris-Roubaix, régalez-vous bien. Voilà, et puis réagissez dès la fin de semaine sur radiovélo.fr, les réseaux sociaux. Merci Guillaume, merci Mélanie, merci Julien, merci.
Bonne semaine,
ciao à très vite.
Bonne semaine. Bonsoir.